Respectez nos rythmes biologiques pour mieux vivre, tel est le message que nous enseignent les chronobiologistes, les spécialistes de notre horloge interne. De très nombreuses études montrent que la désynchronisation de nos rythmes peut perturber durablement notre santé. Avec nos confrères du magazine Cerveau et Psycho, nous allons vous donner tous les conseils aujourd'hui autour du sommeil, de l'alimentation, de l'utilisation des écrans, afin de mettre nos pendules biologiques à la bonne heure et nous sentir mieux. J'attends dès maintenant vos messages et vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé la TAC. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, une révélation sur les dinosaures qui étaient de vraies mères poules, visiblement.
Et oui, Mathieu, les paléontologues s'en doutaient, ils ont maintenant une preuve. Certains dinosaures pas trop gros couvaient leurs œufs. On casse la coquille pour étudier les embryons avec l'auteur de ces travaux, le français Romain Amiot.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons nos partenaires de France 5 pour le documentaire scientifique à découvrir ce soir avec des lions, des guépards et des tigres de Sibérie pour descendre l'arbre généalogique des félins. Stéphanie Texier est aux commandes de l'émission qui a été préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati avec Benoît Tonson.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Synchronisation de nos horloges biologiques, ce sera dans le dossier dans un instant pour trouver le bon rythme avec mes invités que je salue, le physiologiste André Klarsfeld et Sébastien Boller de Cerveau et Psycho. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
André Klarsfeld, est-ce que le corps est une horloge qui a besoin de garder un rythme très régulier pour être toujours au top?
Le corps est une collection d'horloges, hein. C'est un vrai magasin d'horlogerie. Mmh. En fait, on s'est aperçu, c'est assez récent, ça remonte à la fin des années 90, on s'est aperçu qu'il y avait des horloges pratiquement dans toutes nos cellules, et il faut qu'elles arrivent à battre en synchronie les unes avec les autres. Donc ouais. C'est un gros enjeu.
Grosse prouesse, effectivement. Sébastien Boller, c'est important de bien connaître son chronotype pour savoir, par exemple, si on est du matin ou du soir?
Oui, alors ça c'est vraiment la base, effectivement, et on n'y pense pas toujours. Mmh. Le nombre de gens autour de moi qui j'ai commencé à parler de ce sujet, c'était même pas posé la question par exemple le coup de fatigue qu'ils ont à un certain moment de la journée serait pas lié à une inadéquation entre effectivement le fait qu'ils sont plus du matin et qu'on les force à avoir des horaires du soir ou l'inverse. Donc il faut commencer par savoir ça. Oui.
Voilà, et il y a un test d'ailleurs pour le savoir dans ce numéro de Cerveau et Psycho. On va se retrouver dans un instant pour trouver le bon rythme avec les messages et les questions des auditeurs qui arrivent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Les dinosaures et les oiseaux sont cousins et les indices comportementaux validant leur ressemblance s'accumulent de plus en plus. Une étude menée par des chercheurs français et chinois montre que l'oviraptosaure, une espèce de théropode relativement petit, couvait très certainement ses œufs pendant plusieurs mois. Une confirmation obtenue en Chine en analysant la composition osseuse d'embryons fossilisés dans l'œuf. Et on en parle avec vous, Romain Amiot, bonjour.
Bonjour Axel.
Bonjour, et c'est Mathieu qui vous parlait.
Pardon, bonjour Mathieu.
Bonjour à vous. Vous êtes premier auteur de cette étude parue aujourd'hui dans la revue Paléontologie. Vous êtes chargé de recherche à CNRS au laboratoire de géologie de l'université Lyon 1. Alors d'abord, à quoi ressemblaient ces théropodes couveurs d'œufs?
Alors les oviraptorosaures, je me permets juste de corriger, il manquait une petite syllabe. C'était ils appartenaient au groupe des théropodes, donc des petits dinosaures qui de la même famille que les carnivores tels que le gigantesque T-Rex ou les petits vélociraptors, et qui étaient donc bipèdes, couverts de plumes a priori ou de protoplumes, et qui possédaient une sorte de bec. Les mâchoires à dents telles qu'on les connaît chez les autres dinosaures carnivores.
Alors comment est-ce que vous avez fait pour étudier ces dinosaures et savoir qu'ils couvaient leurs œufs? Vous avez trouvé des œufs, c'est ça?
Alors en fait, grâce à une collaboration avec des paléontologues chinois, notamment de l'Institut de paléontologie des vertébrés de Pékin et le musée de Nanning, qui est dans le sud de la Chine, j'ai pu avoir accès à des échantillons, donc des œufs qui contenaient à l'intérieur les squelettes d'embryons de ces petits oviraptorosaures.
Et ça se trouve facilement ce genre d'embryon fossilisé?
Non, ce sont vraiment des fossiles très très rares. C'est pour ça qu'on a pu en obtenir que 7 pour l'étude, ce qui est déjà un nombre énorme. Mais ce sont vraiment des fossiles très très peu communs.
Alors ça veut dire que vous avez cassé la coquille?
En quelque sorte, oui. Nous avons appliqué une méthode donc qui consiste à analyser la composition isotopique, donc la chimie de ces coquilles d'œufs et puis des petits embryons. Et donc ça implique effectivement prélever un petit peu d'os, prélever un peu de coquille pour l'analyse.
Ils faisaient quelle taille ces œufs, Romain Amiot, exactement? Alors, ils ressemblaient à quoi?
C'était des œufs alors très très allongés. Qui faisait à peu près une vingtaine de centimètres de long pour à peu près 7-8 centimètres de large. Mm-hmm. Ils ont été retrouvés donc notamment en Asie sous forme de donc dans des pontes complètes où en fait ils sont déposés deux par deux autour d'un sur en bordure enfin tout autour de enfin en cercle et donc formant un grand nid.
Alors, expliquez-nous comment on fait en analysant les os d'un embryon de dinosaure pour dire qu'il a été couvé.
Les œufs.
De l'embryon dans l'œuf.
Ah, les œufs.
Oui. Donc en fait, la technique que nous utilisons, en fait, nous utilisons un thermomètre isotopique. Uh-huh. Donc c'est une méthode qui consiste à partir de différences infimes existant entre les atomes d'oxygène, donc qu'on appelle des isotopes, mm-hmm. De retrouver à quelle température en fait se sont formés donc ces éléments os, coquilles d'œufs contenant cet oxygène. Alors, en fait, on connaît la relation qui existe entre le rapport d'abondance entre ces différents éléments, ces différents atomes d'oxygène et la température. Et en appliquant ces équations, on arrive à retrouver la température à laquelle l'os de l'embryon s'est formé. Donc, c'est la température de l'œuf, donc d'incubation de l'œuf. Et en fonction de cette température d'incubation, on peut en déduire la méthode à laquelle il a été incubé.
Ça, c'est une méthode qui est facile à réaliser, Romain Amiot, parce que là, en vous entendant, ça paraît très mathématique et très simple au fond, mais c'est très difficile sur le terrain à faire.
Alors c'est pas du tout trivial. Il y a toute une étape de préparation chimique, d'analyse avec une machine qu'on appelle le spectromètre de masse, mm-hmm. qui va nous mesurer les abondances relatives de ces différents isotopes. Et enfin, on se retrouve avec des valeurs. Et ensuite vient toute la phase d'interprétation. Jusqu'à arriver à déduire la température d'incubation de ces œufs.
Mais ça veut dire que chaque température est associée à un mode d'incubation ?
Dans la nature actuelle, on a plusieurs les animaux qui pondent des œufs, donc les animaux ovipares, ont différentes méthodes d'incubation. On va avoir donc chez une grande partie des oiseaux la couvaison, donc qui consiste à s'asseoir sur son nid, sur ses pontes, pour maintenir les œufs au chaud. Mais on va avoir également d'autres méthodes, comme par exemple les reptiles, beaucoup de reptiles et les tortues qui enterrent leurs œufs mmh. pour les protéger et les maintenir à une température qui va être celle de l'environnement dans lequel le nid se trouve. Également, certains animaux comme le crocodile indo-pacifique ou encore il existe un oiseau australasien appelé le mégapode qui, eux, fabriquent carrément un énorme monticule de végétaux et de boue dans lequel donc ils déposent les œufs et la chaleur produite par la décomposition des végétaux va être la température à laquelle vont être incubés les œufs. Et toutes ces différentes stratégies, en fait, vont se traduire par des températures différentes, mmh. donc des températures d'incubation différentes pour les animaux.
Alors, il y a un poids maximum quand on veut couver ces œufs à ne pas dépasser ?
Un poids maximum à ne pas dépasser, très probablement, j'imagine que vous avez tous en tête le diplodocus.
Ben oui, tous les géants, oui.
Effectivement, on imagine très mal le diplodocus s'allonger sur ses œufs qui sont du coup relativement petits par rapport à la taille de cet animal, sans les casser. Donc c'est fort possible que au-delà d'une certaine masse, la couvaison n'ait pas eu lieu. Mais par contre, il semble que, par exemple, un autre oviraptorosaure qui s'appelle le gigantoraptor, là, qui est un grand oviraptorosaure qui faisait jusqu'à 8 mètres de long pour plus d'une tonne, il est possible que lui encore pouvait couver ses œufs. C'est comme ça qu'il est encore représenté aujourd'hui.
Ça, c'est ce que vous allez essayer de faire ou que vous êtes déjà en train de faire, essayer d'adapter justement votre technique à des espèces plus grosses ou pas ?
C'est l'objectif, hein, ça va être la prochaine étape. Effectivement, ça va être d'accéder à des œufs avec l'embryon à l'intérieur, préservé de beaucoup de dinosaures plus gros et appartenant surtout à d'autres groupes que les théropodes, puisque les théropodes, c'est la lignée qui a notamment conduit aux oiseaux qu'on retrouve aujourd'hui.
Actuel.
Mais effectivement, l'idéal, enfin pour nous, ce serait de pouvoir accéder à des pontes de sauropodes, donc Diplodocus et tous ces congénères.
Alors ça veut dire que vous allez frapper à la porte d'autres laboratoires chinois pour avoir d'autres œufs ?
Alors pas que chinois, parce que des œufs contenant des embryons, il en existe un peu partout dans le monde, notamment en Afrique du Sud, avec des pontes de ce qu'on appelle les prosauropodes, donc des sauropodes primitifs qui existaient à la fin du Trias ou au début du Jurassique, mais également en Amérique du Sud, où en fait il existe des pontes avec des œufs contenant quelques embryons de titanosaures, donc encore des grands dinosaures sauropodes dont les méthodes d'incubation restent discutées. Ce qu'on espère, c'est que cet article va nous ouvrir les portes de ces musées et de ces collections pour pouvoir poursuivre l'étude.
Alors, en tout cas, bravo Romain Alliot, puisque vous êtes premier auteur de cette étude, parue aujourd'hui même dans la revue Paléontologie, autour donc de la couraison des théropodes faisant partie des oviraptorosaures.
Oui.
C'est bien ça. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Et puis Axel, on se retrouve demain pour une nouvelle lune. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique. Et si notre langue était capable de sentir l'eau, des chercheurs de l'université de Pasadena suggèrent qu'en plus des 5 saveurs, sucré, salé, amer, acide et umami, les mammifères pourraient être également capables de détecter spécifiquement la présence d'eau dans leur bouche via les récepteurs de l'acidité. Une série d'expériences menées sur la souris montre qu'en remplaçant progressivement les biberons d'eau dans les cages des souris par des sources de lumière qui stimulent les récepteurs à l'acidité, les chercheurs ont réussi à berner les souris, leur faisant croire qu'elles buvaient alors qu'elles léchaient une source de lumière. De plus amples études moléculaires seront nécessaires pour valider la découverte et peut-être un jour affirmer que l'eau a un goût. La couche d'ozone qui a du mal à se reformer à cause d'un nouveau polluant issu de l'industrie chimique, des chercheurs australiens tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme à propos du dichlorométhane, comme les fameux CFC, responsables il y a 50 ans du trou dans la couche d'ozone. Le dichlorométhane, quand il est bombardé par les rayonnements solaires, émet de la chlorine qui à son tour détruit les molécules d'ozone. Les concentrations de ce gaz dans les hautes couches de l'atmosphère ont augmenté de 8% chaque année entre 2000 et 2012 et pourraient bien continuer. Il s'agit maintenant pour les chercheurs d'essayer d'identifier les principaux secteurs émetteurs de ce nouveau polluant pour tenter de les sensibiliser à ce problème. Et puis enfin, les passereaux des villes savent se débarrasser des puces et des tiques dans leur nid et ils se servent pour cela de vos mégots de cigarettes. Cette découverte est peut-être une première preuve d'automédication chez les oiseaux. Pendant plusieurs mois, des chercheurs mexicains ont étudié le comportement du petit roselin familier sur le campus de Mexico. Pour tester leur réaction en cas d'invasion de parasites, ils ont artificiellement provoqué une infestation dans la moitié des nids de leur étude. Eh bien, ils ont remarqué que les oiseaux se sont mis en quête de mégots de cigarettes pour garnir leur nid, la nicotine étant connue pour ses vertus antiparasites. Allez, chronobiologie, c'est le dossier de la tête au carré dans un instant.
control and I was lying. Take off, take off. Take off all your clothes. Take off, take off. Take off all your clothes. Take off, take off. Take off all of your clothes. They say
for Life avec la voix de Lana Del Rey sur France Inter.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Le sommeil de l'homme, c'est son bien le plus précieux. Pendant qu'il dort, un travail de récupération, de régénération s'effectue à tous les niveaux de son organisme. Nerveux, musculaire, sanguin, glandulaire, hormonal, suivant une mécanique complexe et peu connue. Il en a besoin d'ailleurs. Pour résister à l'agression permanente dont il est l'objet de la part de la vie. De la part de cette vie telle qu'il s'est créée et dont il doit supporter à présent le rythme écrasant. Mais, alors que pour faire face à ce genre de vie, la période de repos et de sommeil devrait logiquement s'allonger, en fait il la raccourcit, il la rogne. Et ce qui lui reste de sommeil, tronqué, grignoté, est encore perturbé par tout ce que la vie moderne est capable d'inventer.
C'est en 63, finalement. On disait des choses assez exactes déjà à l'époque sur l'ERTF, dans l'émission Visa pour l'avenir autour du sommeil de l'homme. Et c'est l'objet de l'émission de cet après-midi avec des conseils pour vivre au bon rythme à la lumière des études scientifiques. Dossier avec vous, André Klarsfeld et Sébastien Boller. André Klarsfeld, vous êtes professeur de physiologie à l'École supérieure de chimie, de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris. Vous êtes chercheur au laboratoire Plasticité du cerveau et membre de la Société francophone de la chronobiologie. Vous avez publié en 2009 chez Odile Jacob, Les horloges du vivant. Sébastien Boller, vous êtes le rédacteur en chef de la revue Cerveau et Psycho. L'idée, Sébastien, c'est de nous sensibiliser à cette question du rythme avant l'été, justement, pour essayer de se recadrer.
Oui, l'été, c'est un bon moment pour faire le bilan sur ces rythmes, parce que c'est un moment où on peut finalement laisser s'exprimer son horloge biologique naturelle. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on a dans le cerveau, et puis ailleurs aussi, des oscillateurs biologiques qui nous font nous réveiller plutôt très tôt le matin, plutôt un peu moins tôt. Et parfois, quand on travaille toute l'année, on est en fait obligé de se réveiller à certains horaires à cause de l'activité professionnelle. Et ça peut masquer en fait ce que serait notre heure de réveil idéale. Ouais. Alors en vacances, ça ne veut pas dire qu'il faut aussi faire la fête jusqu'à pas d'heure, parce qu'après on se retrouve à se réveiller à des heures qui ne sont pas naturelles non plus. Mais si on vit naturellement et sainement, on peut par exemple se rendre compte qu'on a plutôt tendance à se réveiller plutôt à 9h qu'à 6h, et se dire peut-être que ce que je fais pendant l'année au travail, ça me contraint un peu mes horloges.
Ouais. André Klarsfeld, on a entendu ce son de 1963 tout à l'heure. Est-ce que la science de la chronobiologie existait déjà à l'époque? Parce que c'est une science relativement jeune, quand même.
Oui, c'est une science très jeune. Le maître mot dans le domaine, c'est circadien. C'est donc circadien, ça vient du latin, ça veut dire environ un jour. Donc, ce sont des rythmes et des horloges qui tournent sur environ un jour, pas exactement 24 heures. Et le mot lui-même est apparu en 1960. Donc, à peine.
Oui, c'est ça, c'est à peu près l'époque.
Au moment de l'émission que vous avez citée.
Absolument. Ce qu'on entendait était assez exact déjà, au fond, Sébastien Boller.
Et surtout, ce qui est terrible, c'est que on en était qu'au début. C'est-à-dire que déjà, la personne qu'on a entendue nous disait « L'homme aujourd'hui est soumis à une vie écrasante qu'il s'est lui-même créée. » Donc il parlait évidemment de la technologie qui changeait les horaires de coucher. Ouais. Et qui eût cru qu'on irait encore beaucoup plus loin avec aujourd'hui l'invasion des lumières artificielles, des écrans, du numérique, qui nous poussent encore beaucoup plus loin que ce que ces gens en 1963 pouvaient imaginer.
Il y aura sûrement des questions des auditeurs sur ce sujet sur franceinter.fr et sur le hashtag l'attaque. Comment, André Klarsfeld, fonctionne exactement cette horloge biologique interne? Est-ce que c'est vraiment réglé comme un coucou suisse?
Peut-être pas aussi précis qu'un coucou suisse, mais quand même, pour un mécanisme biologique, c'est d'une remarquable régularité. Donc il peut y avoir des fluctuations d'un jour sur l'autre, mais la tendance à long terme, on peut la voir sur des animaux de laboratoire, parce qu'on peut les garder dans une obscurité constante, donc ils n'ont aucun repère temporel, il n'y a pas d'allumage ni d'extinction de la lumière. On peut les garder dans ces conditions-là pendant des mois, et ils s'activent tous les jours à peu près, non pas à la même heure, parce que justement leur rythme n'est pas exactement 24 heures, mais tous les jours avec quelques minutes ou quelques dizaines de minutes d'avance ou de retard. Mais pour un animal donné, ce sera toujours le même nombre de dizaines de minutes ou le même nombre de minutes. Ce qui fait que les chercheurs peuvent prédire 8 ou 9 mois à l'avance à quelle heure ce hamster précis ou cette souris précise s'activera le jour de Noël suivant.
Oui. Donc on voit bien que ça ne dépend pas du jour et de la nuit, hein, que c'est vraiment cette horloge interne à notre organisme qui régule tout cela.
Tout à fait. L'exemple un petit peu malheureux qu'on peut donner chez les humains, c'est les personnes qui sont aveugles et qui ont perdu vraiment toute connexion entre la rétine et le cerveau. Donc elles n'ont pas aucune perception de la lumière, ni consciente ni inconsciente, parce qu'on y reviendra peut-être, mais la perception de la lumière par nos horloges qui démet à l'heure est une perception inconsciente qui passe pas par les cellules de la vision classique. Et donc ces aveugles se décalent progressivement, leur période, leur rythme n'étant pas de 24 heures. Il y a des moments où ils sont en phase avec le jour extérieur et des moments où au contraire ils sont en opposition totale de phase. Et donc en plus des problèmes liés à la cécité, ils ont ce problème de synchronisation avec le jour extérieur et donc avec les problèmes de sommeil qui vont avec, les problèmes de vie sociale qui vont avec.
Est-ce qu'on observe ça également chez les populations du Nord, par exemple, qui ont beaucoup moins de jours l'hiver, ou le contraire, évidemment, l'été, ou est-ce que finalement leur horloge interne fonctionne exactement comme des habitants de l'équateur?
Je ne crois pas qu'il y ait d'études très précises qui étaient faites sur le fonctionnement des horloges en fonction de la latitude. Par contre, ce qui est bien connu depuis longtemps, c'est les phénomènes de dépression saisonnière. Donc le blues de l'hiver.
Oui.
Et là, il y a clairement un effet plus marqué dans les latitudes les plus élevées, que ce soit au nord ou au sud. Et on pense, enfin une des hypothèses sur l'origine de cette dépression saisonnière est liée effectivement à un dysfonctionnement au niveau du système circadien, au niveau de l'horloge interne.
Alors justement, Sébastien Boller, la luminosité, on voit que c'est aussi un des grands synchronisateurs de cette horloge quand même, et qu'on on a besoin de cette lumière.
C'est le premier, c'est vraiment le signal lumineux qui va, comme le disait André Klarsfeld, stimuler certaines cellules dans notre rétine, et ensuite transmettre un message à l'intérieur de notre cerveau, à ce qu'on appelle l'horloge circadienne cérébrale, qui est un petit noyau dans notre cerveau, qui s'appelle le noyau suprachiasmatique, qui est une partie de l'hypothalamus, qui a un rôle pivot après dans la régulation de certaines hormones, à la fois dans le cerveau et dans le corps. Et c'est vraiment souvent on l'appelle, je sais pas si André Klarsfeld me confirmera, c'est un peu le chef d'orchestre de nos horloges biologiques. C'est cette partie de nous qui est censée caler toutes nos horloges, celle du foie, celle de la rate, celle du cœur, celle de toutes les cellules de notre corps, caler leur rythme sur finalement le synchronisateur externe, le fait que c'est le jour, que c'est la nuit, et parce que c'est ça qui est en commun à tous les êtres vivants et à tous les êtres humains qui vivent ensemble. C'est ça qui va nous donner le rythme pour vivre en société, pour synchroniser nos activités.
Ouais. Alors ça c'est incroyable parce que vous le disiez tout à l'heure, André Klarsfeld, donc chacune de nos cellules possède une horloge propre, comme nos organes d'ailleurs, et tout ça doit se synchroniser en même temps.
La vision qu'on en a aujourd'hui, c'est que dans tous les organes, il y a des cellules d'horloge, des cellules qui contiennent une horloge, où on peut mettre en évidence un certain nombre de rythmes au niveau de l'expression de gènes et de protéines, qui sont des rythmes de 24 heures à peu près. Encore une fois, c'est pas 24 heures exactement. Ce qui montre bien que c'est de nature endogène, c'est pas juste quelque chose qui suit la rotation de la Terre, qui elle a une période bien bien déterminée de 24 heures. En revanche, il est probable que toutes les cellules de tous les organes ne contiennent pas une horloge. Donc, par exemple, dans le poumon, ça a été relativement bien étudié. Il y a certains types cellulaires du poumon qui contiennent une horloge et qui, du coup, peuvent dire aux autres cellules du poumon quand elles doivent s'activer. Elles sont pas capables, les autres ne sont pas capables de savoir l'heure de façon autonome. Donc, ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que toutes nos organes contiennent des horloges, un grand nombre d'horloges, et le fonctionnement de ces horloges, on peut le décrire au niveau d'une cellule.
Est-ce que ce rythme circadien change beaucoup au cours d'une vie ou pas, entre la petite enfance et la fin de vie? Est-ce qu'elle évolue beaucoup pour un même individu?
Et il semble bien que oui. Il y a une grande étude qui a été menée à l'initiative d'un collègue allemand qui s'est étendu à pas mal de pays européens. Donc maintenant, ils doivent avoir pas loin d'une centaine de milliers d'individus dans leur cohorte. Et ce qu'on observe de façon très claire, c'est que il y a un pic de sous-aritude, si je puis dire. C'est-à-dire que au moment de l'adolescence, en moyenne, c'est là que les gens sont le plus du soir. Alors après, il y a des différences individuelles, hein. Mais pour un individu donné, il va passer par un pic d'être du soir à un moment de l'adolescence, et ensuite il va progressivement redevenir plus du matin.
On reparlera des rythmes scolaires, hein, parce que vous souhaitiez réagir justement à ce qu'on entendait tout à l'heure dans les infos, et puis la difficulté pour les adolescents qui sont plus du soir, justement, de se lever tôt le matin. Sébastien Boller, il y a un test pour connaître notre chronotype dans ce numéro de Cerveau et Psycho. Si on a des difficultés justement à se lever le matin, on peut savoir quel est exactement son rythme à la page 52 de ce Cerveau et Psycho, et c'est important de le faire, hein, de connaître son propre tempo. Au fond, hein.
Oui, c'est vous qui nous avez aidé à faire ce test, je crois, André Klersfeld.
Hein. C'est un test qu'on peut trouver sur Internet. Oui.
Et, alors, c'est un test assez simple, puisque son but, c'est de savoir si on est plutôt du matin ou plutôt du soir. Bon, donc c'est assez dichotomique, mais ça apporte déjà des enseignements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des publications, des premières théories qui voient le jour pour essayer de créer des chronotypes plus fins. Dire, voilà, vous êtes plutôt un peu du matin, plutôt un peu du soir, plutôt un mélange. Alors, il y a des gens qui utilisent, vous êtes plutôt type ours, plutôt type loup, plutôt type marmotte. Ça reste pseudo-scientifique. Mais ce test, effectivement, du matin et du soir, ça repose vraiment sur des classifications qui sont assez bien établies. Et déjà, ça apporte des enseignements. Ouais. C'est-à-dire que vous faites passer ce test à votre voisin, à votre oncle, à votre tante, à votre conjoint. Il va déjà se rendre compte, souvent, de détails qui pressentaient, mais qui ne s'étaient pas vraiment formalisés dans le cadre de cette classification-là. Et d'un seul coup, les gens vous disent « Ah, mais je comprends un certain nombre de choses. Je comprends pourquoi je mange la nuit, pourquoi je suis fatigué le lendemain, pourquoi je suis crevé en ce moment alors qu'au travail, j'ai pas de stress particulier. J'y commence à avoir un certain âge, je suis de plus en plus du matin. Et là, on peut commencer à mettre les choses à plat. Et souvent, ça peut être un point de départ d'une hygiène de vie peut-être un peu différente, un peu plus raisonnée.
Et on verra pourquoi c'est important de le savoir, avec les répercussions, évidemment, de cette désynchronisation dans certains cas qui peut être assez grave. On en discute avec vos messages qui arrivent, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque juste après Voodoo Game. Elle décide.
Amenez, n'arrête pas la pluie. La journée commence. Pour beaucoup d'entre nous, c'est l'heure de se lever. Mais il existe une catégorie de la population pour qui la chose est extrêmement difficile. Bienvenue dans le monde des adolescents et de l'horloge biologique la plus dysfonctionnelle qui soit.
Taylor ? Taylor ?
Ouais.
T'es réveillé ?
Ouais.
Les jours d'école, Taylor McCallog, 14 ans, met en moyenne 2 heures et 4 rappels à l'ordre pour sortir de son lit.
Taylor !
Si je ne le réveillais pas, il n'irait pas en cours. Il resterait dans son lit jusqu'à 11h30 du matin et ferait la grasse matinée.
Voilà un son pris sur Internet autour des ados et de leur horloge biologique. 2 heures pour sortir de leur lit, faut une sacrée patience quand même, hein, Sébastien Boller.
Oui, là on peut se demander s'il n'y a pas eu autre chose
petit excès quand même. André Klarsfeld, qu'est-ce que vous pensez justement de ce problème de décalage qui existe particulièrement chez les adolescents, hein? Vous lisez, le chronotype est retardé par rapport à la réalité de l'emploi du temps des ados. Ça, c'est un vrai problème, hein?
Je pense que c'est une des rares données qui soit vraiment bien solidement établie, hein, dans le domaine du chronotype. C'est cette tendance à un chronotype plus tardif au moment de l'adolescence.
C'est-à-dire que la physiologie même de l'adolescent lui permet pas au fond d'être dans une forme resplendissante le matin très tôt.
Exactement. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi, mais c'est quelque chose qui a l'air vraiment d'être lié à la maturation sexuelle, puisqu'on le retrouve dans des tas d'autres espèces sur lesquelles ça a été regardé, hein, de primates ou d'autres mammifères.
La puberté est un moment...
Est un moment où les parents ont du mal à faire lever leurs petits.
Chez les humains ou chez les animaux, voilà. Ouais, Sébastien Boller.
Oui, c'est ce qui revient effectivement dans tous les articles qu'on publiait. L'article de notre collègue allemand, lui, disait que si on laissait faire la nature, grosso modo, les adolescents auraient tendance à se lever à 10h du matin. Ouais. Et il y a un grand débat actuellement, alors c'est beaucoup aux États-Unis, sur justement ce problème qu'ont les lycéens pour commencer leur journée de cours. Ouais. En France, également, dans certaines consultations pour adolescents en difficulté, on entend beaucoup ça. Ouais. Alors, la préconisation, ce serait peut-être de changer l'horaire du début des cours. Mais à cela s'ajoute aussi le fait des changements de mœurs aussi, avec l'arrivée du numérique, avec des adolescents qui parfois
se couchent
très tard avec le téléphone portable, donc bombardent leur rétine de lumière à très haute fréquence, qui justement empêche la synthèse de mélatonine et donc le basculement dans le sommeil. Donc c'est très difficile de démêler les deux. Et certains analystes sur ce point disent, si on commence à mettre tout sur le dos des horloges circadiennes, on va finalement légitimer des pratiques du numérique très tardives pour les adolescents, leur dire c'est pas grave, on va adapter l'éducation nationale à vos pratiques numériques, donc c'est pas évident à trancher.
André Klarsfeld, vous avez justement conseillé l'éducation nationale, hein, c'était dans le cadre d'une réflexion sur les rythmes scolaires, l'idée c'était justement de préconiser le retard du début des cours des collégiens et des lycéens.
Exactement, et en fait on pourrait déjà commencer par éviter de faire le contraire. Puisque ce qui se passe en général au niveau du collège et au niveau du lycée, c'est que les cours, dans certains établissements en tout cas, commencent dès 8h, alors qu'à l'école primaire, à l'école élémentaire, c'est rarement avant 8h30, 9h moins le quart. Donc là, ils perdent une demi-heure, trois quarts d'heure en passant au collège ou au lycée, alors que leur horloge biologique est en train d'aller en sens inverse. Donc c'est clair qu'on va pas... il faudrait réfléchir à cette question, pourquoi est-ce qu'il faut faire commencer les cours dans le second degré plutôt que dans le premier degré. Ça paraît absurde.
Alors cette semaine des 4 jours qui revient, puisqu'on l'apprenait aujourd'hui, hein, le décret qui autorise les communes à revenir dès la rentrée prochaine à la semaine des 4 jours d'école en primaire vient de paraître au journal officiel. C'est une mauvaise idée pour vous alors, cette semaine de 4 jours?
Je vous avoue que je ne suis pas du tout un spécialiste des rythmes scolaires, mais ce qui paraît, c'est une remarque de bon sens presque, un rythme qui compte pour un rythme, c'est sa régularité. Donc
le fractionnement, c'est pas terrible finalement.
Voilà, si vous découpez la semaine en 4 tranches, 2 jours des cours, 1 jour pas court, 2 jours de cours, 2 jours pas court, c'est beaucoup moins régulier que 5 jours de cours, 2 jours pas court. Donc ça paraît assez...
Donc pour vous, d'un point de vue purement chronobiologique, c'est pas une bonne idée, quoi, finalement?
Moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Cela dit, on peut aussi... comment dire, remédier à, ou pallier en partie les effets néfastes si les enfants se lèvent quand même à la même heure le mercredi, même s'ils sont pas courts.
Oui. Mais là, c'est double difficulté.
C'est peut-être pas évident dans les familles.
Ça va être la guerre vraiment dans les familles. Cécile nous dit, j'ai eu à vivre plusieurs années de ma vie la nuit. Depuis quelques années, je suis debout très tôt le matin. J'ai le sentiment que c'est chez moi une histoire d'habitude. Qui veut répondre? Sébastien?
Oui, il y a certaines personnes qui peuvent effectivement s'accommoder de différents rythmes, de différents horaires. En général, ce sont des personnes qui, dans les tests dont on parlait tout à l'heure, sont ni vraiment du soir, ni vraiment du matin. Mais cette adaptabilité, quand même, sans doute pas trop à utiliser. Et au bout d'un moment, les années passant, on peut s'attendre quand même à une certaine fatigue. Et il y a un moment viendra où il faudra s'en remettre à ces rythmes quand même privilégiés.
André Klarsfeld, Elisa qui nous écrit de son côté pour dire: qu'en est-il des gens insomniaques? Ils n'ont pas de rythme biologique, ils passent d'une nuit blanche à 2-3 heures de sommeil, sont toujours fatigués, donc ça n'est pas leur vrai rythme biologique. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Alors, le dossier de cerveau et psycho présente un cas justement de pathologie qui est reconnue depuis relativement peu de temps d'ailleurs, qu'on appelle les syndromes non circadiens ou non 24 heures.
C'est ça, ouais.
Dans lequel les gens ont pas de rythme, ont un rythme irrégulier et ça se traduit et ça conduit à des troubles du sommeil. L'interconnexion entre rythme biologique et sommeil est évidemment très très importante. Mais il y a des tas de raisons pour lesquelles on peut être insomniaque et avoir le type de être dans la situation de votre auditrice. Donc là il faut vraiment consulter pour savoir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les médecins du sommeil, ça fait relativement peu de temps qu'ils sont bien au fait de l'aspect, justement, de ces aspects circadiens, de ces troubles circadiens du sommeil, qui étaient auparavant juste classifiés comme des insomnies.
Ouais, ce cas spécial dont on parlait, Sébastien, c'est un cas sur 1000, à peu près, dans la population.
Oui, deux cas sur 1000, donc c'est rare, mais c'est très handicapant, puisque... Ouais,
vous ouvrez le dossier avec l'exemple de cette femme, d'ailleurs.
Oui, parce que c'était un bon moyen de montrer... le caractère essentiel justement des rythmes circadiens à travers un exemple où le rythme circadien n'existe pas. Donc c'est des personnes par exemple qui vont se coucher un soir à 19h, le lendemain ça va être 21h, le jour d'après c'est 23h, donc la période est de 25 ou de 26h par exemple. Donc c'est... Et c'est un déphasage qu'on sent, elles ne peuvent se caler sur aucun rythme social. Donc il y a des jours où en cours elles tombent de sommeil, d'autres jours la nuit se réveillent en pleine forme, et donc c'est des personnes qui traversent un véritable chemin de croix.
Qui sont en jet-lag permanent finalement, c'est comme un décalage horaire.
Voilà, c'est le jet-lag social parce qu'ils sont déphasés par rapport aux contraintes sociales, et le problème c'est que souvent se déclarent ensuite des maladies somatiques vraiment, pour le coup, vraiment graves. Oui.
On écoute Johnny Mitchell avec Big Yellow Taxi, on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de notre dossier et vos réponses aux messages des auditeurs de La Tête au Carré. With a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half just to see them. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, but leave me the birds and the bees. Please don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam. And a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone.
they paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot.
Trouver le bon rythme, le sommeil, l'alimentation, les écrans, c'est à la une du magazine Cerveau Psycho. C'est l'objet de notre dossier Tête au Carré cet après-midi avec mes invités, le physiologiste André Klarsfeld et Sébastien Boller pour Cerveau et Psycho. Françoise nous dit, petite astuce pour ceux que la lumière du jour réveille trop tôt en été, le masque d'avion. J'habite à la campagne, je dors toute fenêtre ouverte et depuis que j'ai opté pour le masque, mes nuits ont changé. André Klarsfeld, vous confirmez ? C'est une bonne idée ?
Oui, je pense que c'est une bonne idée, oui. Il y a beaucoup de maisons, d'appartements qui sont mal, voilà, il n'y a pas des volets, qui masquent la lumière suffisamment, et oui, c'est une bonne idée. Oui.
Bon, pour justement essayer de se caler sur un rythme à peu près régulier. Sébastien Boller, il y a beaucoup de conseils dans le Cerveau Psycho, en particulier autour de l'alimentation, et on ne fait pas attention du tout à ça, pourtant c'est absolument essentiel de manger là aussi de façon intelligente presque. Hein.
Oui, parce que on a parlé de la lumière comme étant un des grands synchronisateurs de nos horloges, mais l'alimentation aussi. C'est-à-dire que tous les organes qui participent, soit à la digestion, soit à la métabolisation, que ce soit l'intestin, le foie, ont aussi leurs horloges biologiques. Et par exemple, elles vont tourner à plein dans le foie au moment justement de la métabolisation des nutriments. Et il faut en tenir compte. C'est-à-dire que après la digestion, on a besoin d'un temps de repos. Et puis ensuite arrive un temps d'activité pendant la journée, l'après-midi. Et puis le soir, au moment de se coucher, là c'est un moment où justement la prise alimentaire n'est pas du tout la bienvenue parce qu'elle viendrait complètement déphaser les phases naturelles des organes de la digestion.
Vous conseillez donc, même entre le coucher et le repas suivant de vraiment essayer de respecter une période de 10 heures, c'est ça, sans
voilà,
manger?
C'est des séries d'expérimentations qui ont été menées d'abord sur l'animal et puis je crois que ça a été aussi fait chez des étudiants à qui on a demandé, par exemple, des étudiants qui étaient en problème de prise de poids, par exemple, d'observer une période de 11 heures, voire 12 heures, sans prise alimentaire. C'est-à-dire que vous arrangez pour prendre votre dernier petit morceau à manger à 8 heures du soir et de ne rien prendre jusqu'à 8 heures du matin. On s'est rendu compte à ce moment-là, effectivement, il y a beaucoup moins de problèmes de surpoids. Parce que pendant toute cette période où les horloges métaboliques, somatiques étaient plutôt au repos, on ne les sollicitait pas, donc on les laissait suivre finalement une alternance de phases tout à fait bénéfique.
Le grignotage également, ennemi du bon rythme circadien.
Oui, le pire c'est effectivement la razzia sur le frigo en pleine nuit. Ce qu'on voit effectivement de nouveau chez des personnes qui ont des problèmes de poids et qui ont souvent tendance à les grignoter au mauvais moment, ce qu'on voit aussi dans des expériences sur des souris, où il suffit de forcer par exemple des souris à manger pendant leur temps habituel de repos pour voir qu'elles développent un surpoids également. Donc il faut savoir se fixer des règles d'hygiène, de vie. Temporel.
Diabète, obésité, voilà. Ça fait partie vraiment des pathologies qui peuvent découler directement
de cette désynchronisation. Ça commence à être une vraie source de préoccupation. Et on le voit notamment chez les personnes qui ont ce syndrome de non 24 heures, puisque le cas qu'on cite, mais c'est juste pour illustrer le mécanisme qui est en cause. Une personne qui, après des années de grandes difficultés pour s'adapter socialement, impossible d'aller en cours, impossible de trouver un travail, développe un diabète gravissime, où la moindre prise alimentaire, ne serait-ce que des légumes même, une hausse de la glycémie absolument incontrôlable. Donc ça montre vraiment l'impact profond de ces mécanismes.
André Klarsfeld, également dans ce numéro de Cerveau Psycho, des conseils pour les médicaments. Là aussi, il y a une chronobiologie, au fond, à bien respecter pour l'efficacité des médicaments. C'est pareil, on ignore complètement cet aspect-là des choses.
En réalité, la plupart des médicaments, si vous lisez leur notice, ils vous disent de prendre le médicament à l'heure des repas.
Oui, c'est ça.
Du ou des repas, si c'est une fois, deux fois, trois fois par jour. Et il y a, en général, aucune justification précise à cet horaire, si ce n'est que c'est pratique. Parce que les gens, ils y pensent, ils ont un verre d'eau, c'est facile de prendre son médicament à ce moment-là. Mais ce qu'on sait, c'est que le métabolisme des médicaments, c'est-à-dire combien de temps ils vont passer dans l'organisme, combien de temps ils vont pouvoir agir, et les effets qu'ils vont avoir aussi dépendent de l'heure, en fait. Elles dépendent de façon cruciale de l'heure. Si vous donnez un même produit, une même drogue, un même composé à un rat le matin ou le soir, le matin, vous allez peut-être en tuer 80%, et le soir, ils vont tous survivre. Donc c'est la même chose, la même dose, mais pas au même moment. Alors c'est pareil pour les médicaments. Les médicaments, ils vont être plus efficaces à certaines heures, et ils vont aussi être plus dangereux à certaines heures.
Ghislaine demande, est-ce qu'une prise d'antidépresseur le soir, qui a un effet sédatif, peut affecter notre rythme biologique ?
Alors là, je suis pas médecin, donc je voudrais pas m'avancer trop. Ce qui est clair, c'est que sédatif a des chances d'agir sur l'horloge, ne serait-ce qu'en affectant le rythme de sommeil. Donc il est possible que ça ait des effets sur le rythme, oui.
Sébastien, Juliette nous dit, très intéressant votre sujet, mais comment fait-on quand on a des enfants en bas âge pour respecter ou s'octroyer le luxe de rechercher notre rythme biologique ? Ça c'est vrai. C'est compliqué hein, quand on a des petits qui se lèvent beaucoup la nuit en particulier.
Oui. Bah de toute façon, le moment la naissance du tout petit est toujours un chamboulement avec des nuits qui sont fragmentées. Enfin, là, il n'y a pas moyen d'y échapper. C'est toujours très, très éprouvant. Mais il y aurait peut-être des adaptations spontanées qui se font chez la maman. Ça, je ne sais pas. Parce que je sais, par exemple, que les baleines, par exemple, quand elles mettent au nom d'un baleineau, ne dorment pas pendant plus d'un mois. Donc, ce serait intéressant d'étudier chez l'être humain les adaptations voilà, à l'accouchement. Mais non, effectivement, les enfants, surtout après passer le stade du tout petit, les enfants sont plutôt du matin, et puis ne serait-ce que par les rythmes scolaires, et avant l'adolescence, ils se lèvent sans problème en général assez tôt. Là, il faut souhaiter avoir un rythme plutôt du matin, ou alors se partager la tâche avec un conjoint qui n'est pas exactement le même chronotype que vous.
C'est ça. André Klarsfeld, un complément de réponse à ce que vient nous dire Sébastien Boller.
Le système circadien est encore très immature, comme beaucoup de choses dans le cerveau du nouveau-né. Donc, selon les enfants, ils vont acquérir ce rythme avec des périodes de sommeil vraiment prolongées la nuit et plus courtes le jour. Ça va prendre quelques semaines ou quelques mois. On peut les y aider un petit peu en pratiquant vis-à-vis d'eux la même hygiène circadienne que vis-à-vis de soi, c'est-à-dire la nuit quand vous vous levez pour donner le biberon ou le sein, si c'est la mère, vous évitez de mettre des lumières intenses, vous avez des lumières plutôt tamisées, vous passez moins de temps à jouer avec l'enfant, avec le bébé que pendant la journée, donc ça va l'aider à se caler sur le rythme, sur votre rythme.
Comment, demande Titoun, comment avoir un rythme qui convient au corps quand on travaille la nuit ? Alors ça aussi, le travail posté, c'est une vraie difficulté pour se régler.
Ça, c'est une vraie difficulté. Bah, c'est dans les professions justement du travail de nuit qu'on trouve les plus de pathologies de type obésité, diabète, liées aux problèmes d'horloge circadienne. Donc ça reste un vrai problème. Je ne sais pas s'il existe des préconisations spéciales pour les travailleurs de nuit. Il s'agit de trouver un rythme régulier. Je pense que le maître mot, ça reste toujours la régularité. Après, si les personnes qui constatent que véritablement elles ne s'en sortent pas et qu'elles en souffrent trop, il faut peut-être renoncer quand même à ce type d'activité.
Il y a beaucoup de questions dans le domaine de la chronobiologie autour justement des personnes travaillant la nuit, André Klarsfeld.
Oui, il y a des sociétés de consultance qui conseillent les entreprises sur la meilleure façon d'adapter les horaires dans ces cas-là. Il me semble qu'une des préconisations souvent qu'on retrouve souvent, c'est qu'il vaut mieux retarder les shifts, retarder les donc plutôt passer de par exemple un shift de 8 heures du matin à 16 heures, ils vont plutôt passer à un shift de 8 heures du soir à 4 heures du matin ou quelque chose comme ça, plutôt qu'en sens inverse, parce qu'on s'adapte plus facilement dans un sens que dans l'autre.
Sébastien Boller, quel conseil alors finalement pour cet été, pour ceux qui souhaitent essayer de revoir leur rythme et pour mieux affronter la rentrée?
Ce que nous ont confié nos auteurs, c'est que c'est en absence de contraintes sociales qu'on a le plus de chances d'observer son comportement par défaut, si j'ose dire. Donc, sans aller faire la fête de façon excessive, sans non plus se forcer à aller se coucher trop tôt, simplement vivre comme on le ferait si on n'avait aucune contrainte. Et là, on voit apparaître des tendances qui sont les tendances propres. On voit si on se lève plutôt à 8 heures, plutôt à 10 heures. Et si c'est régulier, à ce moment-là, on peut faire ce test aussi et voir si ça correspond pour savoir si on est plutôt chronotype du matin, plutôt chronotype du soir.
Test pour connaître son chronotype dans le nouveau numéro de Cerveau Psycho en kiosque, Trouver le bon rythme. Et puis ce livre, André Klarsfeld, chez Odile Jacob, Les horloges du vivant, que vous avez publié en 2009. Merci beaucoup à tous les deux. À bientôt.
Merci.
La science grand format, en partenariat avec France 5.
Ce soir, 20h50, comme tous les mercredis, le rendez-vous des documentaires scientifiques de France 5 en partenariat avec La Tête au Carré. Ce soir, la science en grand format vous embarque pour l'Odyssée des félins. Bonjour David Amiel.
Bonjour Mathieu.
Vous travaillez pour l'unité documentaire de France 5. Qu'est-ce que nous allons découvrir ce soir donc avec cette grande famille des félins?
Alors, on va suivre le zoologue Patrick Harrier à travers plusieurs continents. Et en fait, on va remonter de branche en branche dans le grand arbre généalogique des félins, donc de leur apparition il y a à peu près 11 millions d'années dans les forêts d'Asie du Sud-Est, jusqu'à nos jours. Donc il y a des images vraiment spectaculaires, on va découvrir le portrait à la fois de superstars du monde animal, donc le lion, le guépard, mais aussi d'espèces beaucoup plus méconnues, donc le caracal, le tigre de Sibérie, le marguet du Belize. Et donc Patrick Harrier va nous expliquer comment ces espèces ont su évoluer en fait pour s'adapter à leur environnement, qui sont parfois extrêmement difficiles, que ce soit les jungles, les toundras désertiques, les déserts, et comment ils sont devenus les prédateurs les plus prospères et les plus emblématiques du monde animal.
On va donc découvrir ensemble un extrait du film à voir ce soir qui concerne une espèce africaine peu connue, effectivement le caracal, avec ses caractéristiques uniques qui lui permettent de survivre dans la savane.
Le caracal. Ce spécimen est une jeune femelle. Son corps délicat n'est pas beaucoup plus gros que celui d'un chat domestique. Elle pèse moins de 10 kilos. Malgré cette apparence frêle, elle est parfaitement armée pour vivre dans ces plaines désolées. Le contour noir de ses yeux absorbe les rayons intenses du soleil. On pense que les étranges pinceaux noirs qui prolongent ses oreilles lui permettent de communiquer visuellement avec ses congénères. Ce sont ces bizarreries qui permettent au caracal de survivre dans cet environnement désertique. Mais la plus grande difficulté reste de trouver de la nourriture.
David Amiel, il y a d'autres attributs uniques qui ont permis aux félins de survivre dans des environnements parfois extrêmes.
Oui, alors il y a de nombreux félins qui ont des caractéristiques qui sont vraiment époustouflantes. Donc toute une partie sont communes en fait à toutes ces espèces. Donc par exemple leur vision qui est 6 fois meilleure que la nôtre. Leurs moustaches qui vont détecter les moindres mouvements et vont les aider à repérer leur proie. Leur colonne vertébrale, par exemple, qui peut faire des rotations de 180 degrés. Ou encore leurs griffes acérées qui sont rétractables. Alors il y a aussi d'autres caractéristiques qui sont uniques à certaines espèces en particulier. Donc on va par exemple pouvoir avoir la panthère nébuleuse qui a des articulations flexibles qui lui permettent de se suspendre la tête en bas tout en haut des arbres et d'attraper ses proies. Le tigre de Sibérie qui a développé un corps massif, une épaisse couche de graisse et une fourrure isolante pour survivre parfois jusqu'à des températures jusqu'à moins 40 degrés. Oui.
Et d'autres exemples, il y en a énormément, on verra ce soir effectivement dans le documentaire, c'est à 20h50, donc David Amiel, ça s'appelle l'Odyssée des félins, et c'est donc à découvrir dans la case Science Grand Format de France 5. Merci beaucoup David, à bientôt. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour Mathieu Vidard.
Nous sommes très en retard, vous l'avez compris.
Ah bon d'accord.
Affaire sensible, de quoi parle-t-on aujourd'hui?
Des choses qui ne feraient pas plaisir à la maîtrise du sommeil, les nuits parisiennes des années 80, les années fric, les années frim. Avec le palace, qui sera le lieu.
On se moquait de la chronobiologie à l'époque.
Eh oui, avec deux invités, Hercine Lebovitch, journaliste à France Info, spécialiste de musique, et Guy Cueva, célèbre DJ du palace, l'un des principaux protagonistes de notre histoire.
Génial, à tout à l'heure.